Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Monsieur Rivière.
Vous êtes, on peut dire, je crois, un homme en colère ce matin, un homme au moins un peu en colère, parce que vous dites qu'il y a des pressions de l'Élysée pour mettre en scène le duel La République en marche contre le Rassemblement national dans les élections européennes. Vous avez le sentiment qu'on est en train, en quelque sorte, de vous voler cette élection ?
Pas à moi, aux Français. Je trouve que la qualité du débat n'est pas bonne.
Vous dites même qu'il est nul, ce débat.
Oui, mais je pense, hélas, que le 27 mai, il va y avoir des députés qui seront mal préparés, et pour l'essentiel des listes françaises qui seront parties à cette élection avec des programmes franco-français, quand ils nécessitent pourtant ces programmes d'être opérationnels, d'avoir été discutés avec d'autres, ce que nous avons fait dans le cadre du parti européen transnational auquel j'appartiens. C'est un an et demi de travail avec 14 partis pour fabriquer un programme qui soit immédiatement opérationnel au lendemain des élections européennes, et dont le candidat à la présidence de la Commission européenne sera Yanis Varoufakis. Je regrette que ce travail n'ait pas été fait par d'autres, mais plus généralement, ce que je pense sur ce débat lancé par le président de la République, et finalement ce face-à-face avec Marine Le Pen, c'est que je crois qu'il y a quelque chose d'assez médiocre et méprisant à l'égard des électeurs et de l'Europe elle-même que de résumer cette élection à un scrutin intermédiaire pour ou contre Emmanuel Macron. Il l'a souhaité, finalement, ce référendum, espérant justement que dans le face-à-face avec le Front National, il s'en sortirait. Le Parlement européen est en codécision sur la plupart des compétitions de l'Union européenne avec les chefs d'État et de gouvernement. Son pouvoir est supérieur au Parlement français. Son pouvoir est probablement supérieur à celui du président de la République lui-même. Et pourtant, cette élection n'est pas prise au sérieux. Et je le regrette profondément. Nous avons essayé de le faire. Je continuerai à le faire jusqu'au bout. Mais ça me frustre que un camp politique qui se revendique pro-européen, celui du président de la République, ait autant méprisé le contenu de cette élection.
Quand vous dites que les députés européens ont plus de pouvoir que les députés nationaux. Vous dites d'ailleurs que le Parlement a même plus de pouvoir que le président de la République. Malgré l'absence d'initiative parlementaire pour les députés européens, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, Valéry Giscard d'Estaing avait dit finalement cette élection n'est pas très importante parce que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir.
Oui, mais je crois qu'il se trompe. D'abord parce qu'il n'a pas dû voir évoluer ce que sont les compétences sur lesquelles le Parlement est en codécision. Évidemment, sur le vote du budget ou sur l'initiative parlementaire, il faut, et d'ailleurs c'est dans notre programme, améliorer les compétences du Parlement européen. Mais après, sur notre vie à nous, sur la question des pesticides, sur la question des perturbateurs endocriniens, sur la question du libre-échange, sur la question de la transition écologique, sur la question de la protection des consommateurs, sur la question de la protection des données, tous sur ces sujets-là, il fabrique nos vies quotidiennes. Il peut la fabriquer aussi en bien, sur le sujet du salaire minimum, par exemple, qui nous oppose d'ailleurs avec Madame Loiseau. Et on donne l'impression que ce scrutin est une étape vers la prochaine présidentielle. Pendant 5 ans, il y a des parlementaires européens qui vont légiférer. Ces choix budgétaires qu'ils vont faire vont modifier en bien ou en mal la vie des paysans, des pêcheurs, mais aussi nos vies quotidiennes, comme consommateurs par exemple, ouvrir l'Europe à des traités de libre-échange avec les États-Unis ou pas, décider d'interdire le glyphosate ou pas. Sur ces questions-là, nous avons des décisions redoutables, cruciales, qui seront prises par les parlementaires européens. Et en parle-t-on ? Je vous le dis très honnêtement, j'ai passé, je le remercie, 40 minutes avec un jeune YouTuber hier qui m'a consacré 40 minutes avec des questions de jeunes sur les européennes. Je n'ai jamais autant parlé de fond que dans ce moment-là. Et je regrette profondément qu'au bout du compte aussi, on méprise la jeunesse qui manifeste le vendredi et fait la grève de l'école parce qu'il y a le dérèglement climatique, parce que les décisions, elles se prennent entre maintenant et dans 10 ans. Et pourtant, on parle de quoi ? Bardella ou Loiseau ? Deux personnes qui ne seront même pas présentes au débat de la semaine prochaine sur France Télévisions, représentées pour l'une par Monsieur Bayrou, pour l'autre par Madame Le Pen. À se poser la question si quand ils seront au Parlement européen, ils auront une petite oreillette pour demander quoi voter. C'est ridicule.
Cette médiocrité, en quelque sorte, du débat sur les européennes que vous dénoncez, est-ce que c'est une spécificité française ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Europe des pays que vous prendriez en exemple pour la qualité de leur campagne européenne ?
La plupart de ceux dans lesquels j'ai été, et je me suis rendu pendant cette campagne européenne, où cette élection est jugée très importante, où on privilégie le profil d'expert des candidats. Moi, quand j'ai demandé sur ma liste à Françoise Sivignon, l'ancienne présidente de Médecins du Monde, qui revient du Yémen où on utilise des armes françaises contre des populations civiles, et j'ouvre la parenthèse, je trouve honteux aujourd'hui que 3 journalistes, 2 de Disclose, 1 de Radio France, aient été entendus par les services de renseignement intérieur pour donner leur source sur la révélation d'informations utiles. La France viole-t-elle les engagements internationaux qu'elle a pris, qui veulent que si elle sait qu'une des armes sont utilisées contre les populations civiles, elle doit interrompre la livraison de ces armes. Aujourd'hui, nous sommes quasiment sûrs que l'Arabie Saoudite a utilisé des munitions et des armes françaises contre des civils. Nous serions donc complices d'un crime de guerre. C'est une information qu'on devrait nous cacher. Et pourtant, c'est ce qui est fait aujourd'hui à l'initiative de qui ? Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Christophe Castaner, des mercenaires. Ils prétendent venir de la gauche, mais où et encore la petite lueur qu'ils avaient quand ils étaient à gauche, internationalistes, attachés aux droits humains. Aujourd'hui, moi, je suis fier que Françoise Sivignon, ancienne présidente de Médecins du Monde, qui revient du Yémen, soit sur ma liste parce que ce sera une experte sur ces questions fondamentales au moment où on veut construire l'Europe de la défense. Voilà un exemple que je prends, mais je crois que c'est plus important de parler de cela que de savoir si Bardella va être devant l'oiseau, puisque l'un et l'autre prennent leurs consignes dans les partis à Paris.
Est-ce que les enjeux de cette élection européenne vous paraissent différents de ceux des précédents scrutins ? Est-ce qu'il y a une urgence particulière ?
Oui, il y a un tic-tac. Et ce tic-tac, il est double, climatique et démocratique. On est confronté à des décisions urgentes à prendre pour changer de modèle de développement. Ça tombe bien, l'Europe, elle a la compétence quasi unique sur la protection des consommateurs. Donc elle peut bouleverser nos modes de consommation et en bien. Elle peut aujourd'hui, elle, engager la transition écologique, ce que nous proposons avec la Banque Européenne d'Investissement en créant des obligations vertes. Donc elle a cette possibilité-là. Mais le tic-tac, il est aussi démocratique. Ce que je veux dire, et je le dis notamment aux électeurs de gauche et aux humanistes, je suis moins frappé de la façon dont les libéraux partout cèdent aux nationalistes sur les droits et les libertés fondamentales. On n'a pas été assez vigilants sur la question des migrants. Ce qui commençait là, à travers la remise en cause de leurs droits fondamentaux, c'était les nôtres. C'était évident, mais on n'a pas voulu le voir. Et aujourd'hui, sur la liberté de circulation, sur le droit des femmes à disposer de leur propre corps, sur les libertés politiques en Espagne, avec le fait qu'on emprisonne aujourd'hui des gens qui ont organisé un référendum en Catalogne, sur la liberté de manifester et votre liberté, qui n'est pas seulement mise en cause en Hongrie. Il n'y a pas que Orban aujourd'hui qui entrave le travail des journalistes. Sur ces libertés fondamentales, les libéraux, dont Emmanuel Macron, c'est peut-être dur à entendre, mais cèdent aux nationalistes. Et il y a une forme de Munich des libertés fondamentales aujourd'hui en Europe, et ce Munich des libertés fondamentales, ce sont tous ces chefs d'État qui aujourd'hui, sous la pression de leur opinion publique, sous la pression des différents partis nationalistes, concèdent la remise en cause de droits qui nous appartiennent à tous. Mais moi, je veux être sur cette digue-là. Et au Parlement européen, je serai sur cette digue, je défendrai nos libertés fondamentales.
Est-ce qu'il y a, selon vous, des enseignements à tirer de cet épisode assez singulier de la vie politique française auquel on vient d'assister, un élu de la France insoumise qui quitte son mouvement et appelle à voter pour la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella ?
C'est la grande confusion du moment. C'est-à-dire que quand des migrations pareilles, des transhumances se passent de la France insoumise au Front national et qu'elles semblent cohérentes, du point de vue de celui qui migre, on perd un peu ses repères. Et c'est pour ça qu'il faut remettre, pardon de la formule, c'est peut-être pas très approprié pour la gauche, mais le clocher au milieu du village.
Oui, l'église au cœur du village, centre du village.
Mais je crois que ça passe par les fondamentaux. C'est pour ça que j'ai pas fait de la question des migrants, de la question du SMIC et de la question de le changement de notre modèle de développement, plus la question des libertés fondamentales, le cœur de la campagne du printemps européen. Et ça a commencé par avoir des partis transnationaux. Je regrette que nous soyons le seul mouvement inscrit dans un parti transnational candidat à cette élection européenne.
Merci Benoît Hamon. Bonne journée.
Merci à vous.